Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir le professeur Mona Dieng. Bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez l'analyse des conflits à l'Université Saint-Paul au Canada et vous êtes l'auteur notamment de deux articles de The Conversation qui se trouvent dans la description de cet épisode, que je cite déjà maintenant. « Fin de parcours pour la force conjointe du G5 Sahel, quels enseignements en tirer ?» publié en janvier 2024. Et un second, « Retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CDAO, décryptage des enjeux sécuritaires ». Enfin, vous avez également, entre autres, co-dirigé un ouvrage aux côtés de Philippe Ongouni et Isaka Soare, « La lutte contre le terrorisme en Afrique, acte de bienveillance ou prétexte géostratégique » publié en 2019. Donc si nos auditeurs n'ont pas compris ce dont on allait parler, là on n'a rien à faire pour eux, nous allons, dans un premier temps en tout cas, bien entendu discuter donc du G5 Sahel, pour une double raison. La première, c'est que ce fut peut-être, en tout cas, un acteur fortement médiatisé, où il y a eu beaucoup d'articles, et je suis sûr que les auditeurs ont déjà entendu parler de ce que c'était que le G5 Sahel, mais aussi, très récemment, parce qu'on a entendu que certains États s'en sont retirés. Et donc, ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, grâce à vous, Mona Dieng, c'est essayer de redonner quelques bases à nos auditeurs pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette actualité. Donc, peut-être pourrions-nous revenir avec les bases, et pourriez-vous nous rappeler pourquoi le G5 Sahel fut-il fondé, et qu'est-ce que c'est au final ?
Merci beaucoup, Vincent. Le G5 Sahel est une organisation sous-régionale qui a été créée par 5 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Ce sont des pays qui couvrent une grande partie de l'espace sahélien en Afrique. Et cette organisation, justement, a été fondée par ces 5 pays-là pour lutter contre le terrorisme, mais également pour entreprendre des programmes de développement économique et de développement social dans l'espace du G5 Sahel. L'organisation a été formée en 2014 par ces 5 pays-là, donc dans un contexte assez particulier où au Mali, les organisations terroristes ont commencé à proliférer et poser bien sûr des menaces sur d'autres pays que sont le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. D'ailleurs, le Burkina Faso, par exemple, a commencé à vivre des attaques terroristes à partir de 2015, entre 2015 et 2016. Et ce sont des groupes terroristes, bien sûr, qui ont pris pied au Mali et qui ont par la suite étendu leurs activités au Burkina Faso et de plus en plus au Niger. Donc, la raison d'être du G5 Sahel, c'était tout simplement d'anticiper et de réduire autant que possible les menaces terroristes, mais également de lancer des programmes de développement économique, parce qu'il y a énormément de défis économiques et sociaux qui sont présents dans ces pays-là et qui entretiennent, bien sûr, les groupes terroristes. C'était dans ce contexte-là, en fait, que le G5 Sahel a été créé, mais c'est une organisation également qui a été facilitée par la France. Pourquoi? Parce que ces 5 pays qui sont membres de l'organisation, ce sont des pays qui sont francophones. Ce sont des pays également qui ont une longue histoire de collaboration avec la France, notamment sur le plan sécuritaire. Et la France, à cette époque-là, en 2014, avait aussi déployé ce qu'on appelle l'opération Barkhane, qui est une opération militaire qui intervient dans les 5 pays. En fait, du G5 Sahel. Donc, l'espace de prédilection de Barkhane correspondait bien sûr à l'espace couvert par ces 5 pays qui ont fondé le G5 Sahel.
Super, merci beaucoup. Et donc, vous avez cité donc l'opération Barkhane, qui est la prolongation de l'opération Serval, et que nos auditeurs connaissent parce qu'on a déjà réalisé un épisode à ce sujet. Et donc, on a dit, voilà, le G5 Sahel, c'est une organisation, mais par exemple, l'OTAN aussi, c'est une organisation. Donc, quel est le degré d'institutionnalité ou d'institutionnalisation de cette organisation? Ou pour le dire autrement, pour nos auditeurs, est-ce qu'il existe, ou existait plutôt, un président du G5 Sahel ou un siège du G5 Sahel, ou est-ce plutôt intergouvernemental?
Le G5 Sahel est une organisation intergouvernementale à l'échelle sous-régionale et qui inclut bien sûr des pays qui sont en Afrique de l'Ouest et d'autres pays comme par exemple le Tchad qui se trouve en Afrique centrale et la Mauritanie qui est à cheval entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Le G5 Sahel, en fait, a été créé dans un contexte particulier, mais il est formé donc de pays qui n'ont pas véritablement de ressources financières, économiques, etc. Et un des problèmes, ou bien un des défis du G5 Sahel, c'est de n'avoir pas réussi à institutionnaliser, en fait, l'organisation de manière forte, parce que le degré d'institutionnalisation, à mon avis, est assez faible. Pourquoi le degré d'autonomisation est assez d'institutionnalisation et d'autonomie, bien sûr, le degré d'autonomie de l'organisation est assez faible parce que c'est une organisation qui a été remarquée par la France et par les partenaires internationaux, en grande partie les partenaires européens. Un des défis, en fait, confrontés par certaines organisations, y compris le G5 Sahel, c'est de n'avoir pas réussi à avoir un degré d'autonomie assez élevé. Pourquoi? Parce que la France a continué à jouer un rôle très, très, très important. Et on avait l'impression aussi qu'au sein du G5 Sahel, il n'y avait pas de leader, de pays leader, d'État leader, en fait. Et le leadership était justement assumé par la France. Donc, je pense que ça a été un véritable problème au niveau du G5 Sahel. Maintenant, au niveau de la configuration, bien sûr, de l'organisation, on sait bien que l'organisation a plusieurs organes. On a la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres, le secrétariat permanent, un comité de défense et de sécurité et ce qu'on appelle les comités nationaux. Mais je pense que les organes plutôt les plus importants, c'était la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres et le secrétariat permanent. Le secrétariat permanent est chargé d'exécuter les décisions du Conseil des ministres. Et en ce qui concerne maintenant les décisions les objectifs, mais également la stratégie de l'organisation, cela incombe en grande partie à la conférence des chefs d'État. Quelque chose qui est important à ajouter, c'est que le G5 Sahel est une organisation sous-régionale. C'est une organisation aussi qui ne fait pas partie de l'architecture africaine de paix et de sécurité de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, qui est l'organisation continentale en Afrique, intervient beaucoup dans le domaine de l'intégration économique, mais aussi dans le domaine de la paix et de la sécurité. Et dans l'architecture africaine de paix et de sécurité, il est prévu que les organisations, les communautés économiques régionales africaines, qui sont au nombre de 8, ce sont ces communautés économiques régionales qui sont le pilier de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Et le G5 Sahel ne fait pas partie de ces 8 communautés économiques et régionales qui forment le pilier de l'architecture africaine de paix et de sécurité à l'échelle régionale. Donc, on peut dire que le G5 Sahel est une organisation en fait qui est complètement déconnectée finalement de l'Union africaine. Et il faut également ajouter que le G5 Sahel a une force conjointe que l'on a appelée la force conjointe du G5 Sahel, que l'on peut considérer comme la composante sécuritaire de l'organisation. Et la force conjointe du G5 Sahel avait pour objectif de lutter contre le terrorisme et les crimes organisés dans les pays couverts par l'organisation.
Et donc cette force conjointe, concrètement, est-ce qu'il s'agissait donc en quelque sorte d'une armée dans laquelle on trouvait des régiments des 5 États membres, y compris la France? Est-ce qu'on peut en dire peut-être une ou deux phrases de précision?
Oui, c'est très important parce que la force conjointe du G5 Sahel avait un commandement mais aussi un quartier général. Le quartier général a été initialement installé à Sévaré, mais par la suite il a été attaqué et par la suite il a été ramené à Bamako, au Mali. Et il a également un commandement commun. Mais également, il y avait beaucoup de difficultés en ce qui concerne l'opérationnalisation de la force conjointe parce que elle dépendait beaucoup de l'opération française Barkhane qui assurait la coordination et le suivi des opérations. Il y avait également ce qu'on appelle les fuseaux, parce que il était prévu que dans le concept d'opération de la force conjointe, et qu'il y aurait une sorte de commandement, le quartier général secondaire, placé, par exemple, à l'ouest, entre le Mali et la Mauritanie, au centre, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et à l'est, entre le Tchad et le Niger. Mais défi majeur en ce qui concerne l'opérationnalisation, c'était que dans le concept d'opération, il était prévu qu'il y avait un commandement commun, mais les armées, en fait, continuaient de dépendre de leur état-major. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, la force conjointe a besoin d'une opération, le commandement de la force va s'adresser à l'état-major du pays qui est sollicité. Et c'est avec l'accord seulement de l'état-major du pays qui est sollicité que des troupes puissent être, sont, seront déployées pour la force conjointe du G5 Sahel. Pour dire que c'est une force qui était sous, par exemple, sorte de double commandement. Le commandement de la force, mais le commandement aussi des pays qui devaient envoyer des troupes. Donc, je pense que cela ça a été considéré, d'après les entretiens que j'ai menés dans la région, comme étant un problème parce que les forces n'étaient pas assez réactives et que en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, on a besoin d'une grande réactivité et de pouvoir déployer des forces rapidement lorsque des groupes terroristes posent des menaces quelque part.
D'accord.
Donc,
En tout.
c'est ça. Il y a, juste pour ajouter aussi qu'il y a
Oui, je vous
aussi
en prie.
des changements par la suite qui sont intervenus après le retrait du Mali et des changements encore plus importants après les retraits de deux autres pays, à savoir le Niger et le Burkina Faso.
Bah, justement, essayons peut-être de retracer une évolution de ce G5 Sahel. En rappelant, vous l'avez déjà dit pour nos auditeurs, qu'on pourrait peut-être en distinguer deux phases, mais vous me corrigerez si je me trompe, de 2014 à 2020, où peut-être le plan est-il suivi plus ou moins comme prévu, et puis 2020, c'est vraiment un moment de charnière qui où commence ce que les médias et certains chercheurs, d'autres ont décrié cette appellation, mais ce que certains chercheurs ont appelé une épidémie de coups d'État, où le Mali, et puis ensuite le Burkina Faso et le Niger, ont connu un changement de régime. Ce sont désormais des régimes militaires qui gèrent ces États et qui ont, en effet, vous l'avez dit, décidé de se retirer du G5 Sahel. Donc avant d'en dresser un bilan, est-ce qu'on peut ne serait-ce qu'avoir une idée de l'évolution de ce G5 Sahel?
Oui, c'est très intéressant, à mon avis, parce que quand on prend l'organisation qui a été fondée en 2014, qui a commencé à travailler sur beaucoup de plans avec des partenaires internationaux, par la suite, en 2017, il y a ce qu'on appelle le lancement de la force conjointe du G5 Sahel qui lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Entre 2014 et 2020, il y avait une mobilisation assez intense au niveau régional, mais aussi au niveau international pour faire fonctionner ces deux composantes, en fait, au niveau du développement économique, mais aussi au niveau sur le terrain avec des opérations militaires. Cette grande mobilisation, en fait, était faite, mais il y avait aussi beaucoup d'espoir que des solutions allaient être mises en place en ce qui concerne donc la lutte contre l'insécurité pendant cette période-là. Mais par la suite, bien sûr, à partir de 2021, on a vu que au Mali, il y a eu un coup d'État et par la suite plusieurs autres coups d'État au Burkina Faso, mais aussi au Niger et plusieurs fois au Mali et au Burkina Faso. Je pense que ces événements, ces crises politiques-là, ont joué aussi un rôle important dans l'évolution du G5 Sahel et de la force conjointe. Mais il faut également rappeler que avant même ces coups d'État, on peut également noter le coup d'État qui est intervenu au Tchad. Ce qui s'est passé au Tchad aussi est considéré comme étant un coup d'État. Pour dire que quatre pays, en fait, parmi les cinq, ont connu des coups d'État, en fait, ces dernières années. Celle de la Mauritanie n'a pas connu un coup d'État, mais n'empêche, la Mauritanie est quand même dirigée par un ancien militaire. Pour dire que tous les pays qui sont membres du G5 Sahel et de sa force conjointe, en fait, sont dirigés par des militaires. Donc, je pense que ce qui a le plus affaibli, bien sûr, la force conjointe et le G5 Sahel, c'est le retrait du Mali d'abord et par la suite le retrait du Niger et du Burkina Faso à la suite des coups d'État. Pour dire que les crises politiques qui sont liées aux coups d'État ont compromis en fait l'effort de coopération sécuritaire et militaire dans la région. Il y a en fait une sorte de rupture en fait dans la façon dont le terrorisme était mené jusqu'à récemment en fait dans la région du Sahel. Et cela en fait pose énormément de questions sur l'avenir en fait de la sécurité dans la région.
Et justement, on va y revenir, mais pourquoi ces régimes décident-ils de se retirer? Est-ce à dire que le G5 Sahel, pour eux, n'était pas efficace? Et du coup, oui ou non, donc bref, est-ce qu'on peut peut-être essayer d'en dresser un bilan? Est-ce que ça remplit ses missions, ce G5 Sahel?
On peut distinguer deux choses. Le G5 Sahel en tant qu'organisation qui intervient dans des projets de développement. Je pense qu'il y a pas mal de projets de développement qui ont été menés ici et là dans le Sahel, mais on n'a pas encore un bilan assez clair de ce qu'a réalisé le G5 Sahel. En ce qui concerne maintenant la force conjointe du G5 Sahel, je disais tout à l'heure qu'il y avait énormément de défis, parce que ce qu'on a constaté, c'est que cette force n'a jamais réussi à devenir pleinement opérationnelle. Elle dépendait en grande partie de l'opération française Barkhane, en termes de coordination, en termes de suivi, mais aussi en termes de déploiement, en fait, sur le terrain. Parce que la plupart des pays qui composent la force ont des ressources logistiques et militaires et financières même assez limitées. Et les pays qui sont le plus confrontés au terrorisme, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ont plus de faiblesses en réalité que les autres pays comme le Tchad et la Mauritanie. Parce qu'il y avait en fait ce qu'on appelle un désengagement disproportionné. Au sein de un engagement disproportionné plutôt au sein de la force conjointe. On a d'une part la Mauritanie et le Tchad qui ne sont pas véritablement très impliqués à un moment donné. Et de l'autre côté, nous avons le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui sont plus touchés par le terrorisme, qui sont engagés, mais qui n'ont pas véritablement les ressources logistiques et militaires nécessaires pour combattre efficacement les groupes terroristes et les crimes organisés. Donc, je pense qu'il y a quand même ces faiblesses-là qui ont beaucoup pesé sur l'évolution de la force conjointe. Donc, en termes de succès, on ne peut pas dire en fait, que la force conjointe a eu du succès. Au contraire, c'est à cause des faiblesses plutôt que certains pays ont senti qu'il n'y a pas véritablement un apport significatif sur le terrain apporté par cette force. Donc, ils ont tout simplement décidé de se séparer de cette force conjointe. Mais bien sûr, avec l'idée que c'est une force conjointe qui n'était pas véritablement assez autonome, et c'est une force conjointe qui dépendait en grande partie de la France. Et dans certains pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il y avait une opinion assez répandue que la force conjointe n'était pas véritablement une force africaine, mais une peu force française, ou bien même si elle est une force africaine, elle est dirigée par la France. Donc, il y a une sorte, en fait, de sentiment de dépossession, en fait, pour les acteurs africains de cette initiative qui, au départ, était considérée comme une initiative prometteuse parce que elle traduisait ce qu'on appelle la volonté des États sahéliens de combattre l'insécurité.
Super. Un tout grand merci, Moda Dieng. Et puis, essayons peut-être de terminer par un peu de prospective, si tant est qu'on puisse essayer, en tout cas. On n'a plus ce G5 Sahel. Donc, d'après vous, qui avez quand même étudié ces questions, quel est l'avenir? Vous n'avez pas de boule de cristal, comme j'aime bien dire, mais qu'est-ce qu'on peut dégager comme tendance potentielle, en tout cas, pour la lutte contre le terrorisme et plus globalement l'insécurité dans la région?
Oui, c'est une excellente question. Si on prend le Sahel, c'est un espace très, très vaste. Les États se sont mobilisés pendant longtemps pour lutter contre l'insécurité dans le cadre de regroupements régionaux. et plus précisément dans le cadre de la force conjointe. Mais ce que l'on a constaté, c'est que cette mobilisation multilatérale au niveau de la force conjointe n'a pas véritablement fonctionné. Et les autres organisations, comme par exemple la CEDEAO, comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a des membres qui sont engagés dans la force conjointe, cette CEDEAO n'a pas non plus été active, par exemple, au niveau sur le terrain. Et elle n'a pas déployé véritablement une force pour lutter contre l'insécurité. Et ce que l'on a constaté également du côté des pays comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali, c'est que ce sont deux pays qui ont également mis en place, après le retrait du G5 Sahel et de la force conjointe, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. Et l'Alliance des États du Sahel, considérée comme une alliance de défense, mais aussi de lutte contre l'insécurité. Ce que l'on a vu, c'est que ces pays-là, c'est ce que j'ai pu noter pendant mes entretiens dans la région, c'est que il y a une sorte de sentiment d'avoir perdu du temps avec la force conjointe. Parce que les pays se sont beaucoup mobilisés pendant un moment pour faire fonctionner la force conjointe du G5 Sahel, mais ils se sont rendus compte que voilà, ça ne prend pas en réalité sur le terrain. Et finalement, ils se sont séparés. Pour dire qu'il y a une sorte de d'insatisfaction par rapport à la force conjointe, et ce qui a poussé les pays finalement à mettre en place le POP Initiative, qu'ils considèrent comme plus flexible, mais aussi plus peut-être moins coûteux en ressources humaines, mais aussi en ressources financières. Donc, il y a en fait cette tendance que il faudrait avoir mettre en place des initiatives qui sont innovantes et qui se distinguent de l'approche traditionnelle en matière de sécurité dans le cadre d'une organisation multilatérale ou d'une intervention militaire de grande envergure, comme l'opération Barkhane, par exemple. Donc, je pense que ces pays-là, en fait, sont en train d'explorer de nouvelles initiatives et ils misent davantage sur, en fait, des opérations bilatérales, des opérations individuelles, mais aussi des opérations, ce qu'on appelle des opérations trilatérales entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, parce qu'ils considèrent que ces opérations-là sont plus efficaces, bien que cela reste à prouver. Ils pensent également qu'ils doivent avoir le degré d'autonomie dans la lutte contre l'insécurité, c'est-à-dire une approche, en fait, autonome, ne pas dépendre des acteurs internationaux en termes de mobilisation financière ou logistique, par exemple, parce que ces trois pays-là, prévoient justement de financer par leurs propres moyens l'Alliance des États du Sahel. Donc, pour dire qu'il y a quand même un changement de cap en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité. De la même façon, on l'a vu également, ces pays-là ont commencé à collaborer avec la Russie parce qu'ils considèrent également qu'ils sont plus satisfaits avec la coopération avec la Russie qu'avec la coopération avec les acteurs traditionnels comme la France et les Européens.
Notamment parce que la Russie est peut-être moins exigeante sur les conditions de respect de démocratie, notamment peut-être, que ne l'était la France.
Ok, bonne question, mais je ne suis pas vraiment sûr que ces pays-là raisonnent en termes de démocratie ou non en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité. Ce que je vois, c'est qu'ils pensent que la Russie est plus flexible lorsqu'il s'agit de donner des ressources logistiques, des ressources militaires, par exemple, les capacités aériennes qui manquent, qui sont vraiment un problème, en fait, pour ces pays-là. Je pense qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir des ressources beaucoup plus facilement, en fait, dans la coopération avec la Russie. Bien sûr, peut-être pour la question des droits de l'homme, la question, en fait, des droits humains, peut-être que ça peut faire une différence, en fait, quand on compare la coopération avec les acteurs européens, occidentaux. À la mesure où, en fait, on l'a vu avec l'Union européenne qui était assez regardante en ce qui concerne les droits humains dans ces pays-là. alors que pour la Russie, ce n'est pas véritablement le cas. Donc, je pense que avec la Russie, ils n'ont pas de la pression en ce qui concerne les droits humains, alors que avec les Européens, voilà, ça a été quand même un problème assez épineux,
D'accord.
assez contesté par les pays du Sahel.
D'accord, très bien. Un tout grand merci, Mme Dieng, pour donc cette étude pour nous du G5 Sahel, de ce qu'il fut, ce G5 Sahel, des raisons pour lesquelles il a été en quelque sorte désactivé, et donc pour les potentialités et les perspectives de la lutte contre le terrorisme dans la région. Un tout grand merci, et j'indique déjà à nos auditeurs qu'ils vous retrouveront sur notre podcast pour discuter donc de ce que tech là aussi, ou de ce qu'est encore, on verra que la CEDEAO et de ses liens avec l'Union africaine, car ce sont des éléments, cette architecture institutionnelle africaine, c'est fort peu connu en Europe. Au revoir.
Merci beaucoup.